Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de « Alors, on dit quoi ?». Un numéro aujourd'hui dédié à la place des jeux vidéo sur le continent, avec un nombre de joueurs en Afrique subsaharienne qui explose littéralement depuis ces dernières années. La preuve, selon une étude du cabinet Newzoo, de 77 millions en 2015, ils sont passés à 186 millions en 2021, soit une augmentation du nombre de gamers multiplié par 2,5 en seulement 7 ans. Et la tendance ne fait que s'accentuer. Face à un tel engouement, les studios de jeux vidéo se développent de plus en plus sur le continent, même s'il faut l'avouer, ils peinent encore à se faire une place sur le marché mondial. Alors, quelles sont les nouvelles tendances en termes de jeux et de pratiques ? Quelle place est accordée à la culture afro dans le gaming ? Ou encore, comment les studios africains peuvent se développer malgré les contraintes inhérentes au continent ? Voilà autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. En studio, Jennifer Loufo, vous la connaissez sûrement, c'est elle qui anime la chronique « Bienvenue dans le game » sur RFI. C'est une joueuse, bien sûr, mais elle est aussi consultante, spécialisée notamment autour des questions d'inclusion dans les jeux vidéo, et elle a fondé l'association Afro-Gameuse. Mehdi Debabi Zourgani est aussi avec nous. Il a une double casquette puisqu'il est à la fois enseignant dans une école de game design, mais il a aussi une formation de psychologue. Et puis au téléphone avec nous, depuis Yaoundé, Olivier Madiba, il est à la tête du studio Kiro au Cameroun. C'est un pionnier en matière de jeux africains et il a créé notamment Orion, l'héritage des Kori Odan. C'est le premier jeu d'African Fantasy. Enfin, Teddy Kosoko est également en ligne avec nous. C'est le fondateur de Maseka Game Studio, une société de production de jeux vidéo sur les mythes et légendes d'Afrique. Il a notamment développé le jeu de foot Golden George. Bonjour à tous les quatre et merci d'être avec nous dans Alors on dit quoi ? L'arbre à palabre de la jeunesse africaine.
Bonjour.
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 Alors, on dit quoi ?
Lucie Bouteloup.
Alors, je l'ai dit à l'instant, on assiste à une véritable explosion du nombre de gamers en Afrique. Comment vous expliquez ce phénomène, Jennifer ?
Oui, beaucoup de plus en plus de gamers en Afrique, le nombre ne cesse d'augmenter. En fait, ça, c'est dû à la croissance et l'accessibilité des consoles, des plateformes sur lesquelles on peut jouer. Donc le smartphone est en plein boom aussi depuis plusieurs années. Les gamers sont de plus en plus nombreux à utiliser leur smartphone. Et puis il y a aussi la question de la croissance de la population en Afrique qui est de plus en plus jeune. Plus on est jeune, plus on va avoir accès à ce type de plateforme, notamment les smartphones. Donc il y a aussi un phénomène de rêve qui arrive, parce que si on commence à parler typiquement d'e-sport, le jeu vidéo fait rêver en ce sens-là, puisque c'est du jeu vidéo compétitif qui fait voyager des gens, qui les font partir dans le monde entier, compétir dans le monde entier. Donc forcément, l'engouement est énorme.
Alors, ces joueurs, qui sont-ils ? Est-ce qu'il y a un profil type du gamer sur le continent ? C'est un homme, c'est une femme, ils sont jeunes. Teddy Kisoko ?
On a aujourd'hui, en fait, sur le continent africain, trois types de profils, donc deux qui sont majeurs. Le premier profil sont des profils comme des gens comme moi, nés dans les années 94 ou dans les années 90 de manière générale, donc avant Internet, et qui ont grandi avec Internet. On a une deuxième génération, les jeunes qui sont nés après les années 2000 et qui jouent aussi énormément à des jeux comme Fortnite, etc., très à la mode. Et après, en troisième génération, on a tous les nos aïeux, nos anciens qui vont plutôt jouer à des jeux comme des jeux de cartes, des jeux de boules pelote, les ludo, etc.
Donc trois générations, mais est-ce que le gamer est plutôt un homme ou une femme ?
La question aujourd'hui, c'est qu'on remarque que dans le monde, du moins, il y a une parité en termes de joueurs et de joueuses. Donc, on irait penser que c'est à peu près la même chose sur le continent, sauf que c'est pas tout à fait exactement les mêmes problématiques qui sont sur le continent. Je pense que aujourd'hui sur le continent, vous avez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui jouent, mais à cause de la perception encore du jeu vidéo qui est encore trop négative, qui est mal vue comme étant une perte de temps, qui n'est pas porteuses d'opportunités économiques ou même dans les métiers. On va plutôt reléguer les femmes à s'occuper, à faire autre chose, en tout cas gagner leur vie, fonder une famille, etc., plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Mais ça n'empêche que beaucoup de femmes jouent et malheureusement, parfois, elles doivent se cacher pour le faire.
Alors, c'est quoi les grandes tendances de jeux sur le continent en ce moment ? Qu'est-ce qui plaît aux gamers, Teddy Kosoko ?
Il faut savoir que pendant des années, l'Afrique a suivi les tendances mondiales, donc a joué à des jeux qui étaient populaires aux États-Unis, en Europe et un tout petit peu en Asie, parce que le marché intérieur ne produisait pas suffisamment de contenu. Donc, les gens ont toujours joué à des jeux comme Call of Duty, des jeux de tir, des jeux de guerre, des jeux comme FIFA ou PES quand ça existait encore à l'époque, et des jeux de société, des jeux de dames, des jeux d'échecs et des jeux de cartes. Ces derniers temps, on s'est rendu compte qu'il y a depuis Black Panther une accélération de la demande locale. Donc les gens vont rechercher des produits locaux, donc des jeux comme ceux qui sont créés par Olivier, ceux qu'on crée chez Maseka ou Kaifo au Sénégal. Mais la problématique par rapport aux contenus locaux, c'est que la plupart du temps, les joueurs ne savent pas où trouver ces jeux. Et surtout, il est hyper compliqué pour les joueurs d'acheter ces jeux localement.
Bon, donc quand même, une majorité de jeux de combat, de guerre et de simulation sportive. Vous êtes d'accord, Jennifer, avec ces tendances ?
Oui, alors pour le coup, c'est plutôt pour les personnes qui vont avoir accès à des plateformes plus performantes, on va dire, pour les personnes qui ont accès à des consoles de jeux vidéo, des ordinateurs assez puissants. Oui, ça va être des personnes qui vont jouer plutôt à des jeux de combat type Tekken, Street Fighter et compagnie. Les jeux de combat font partie de ceux qui sont les plus accessibles si on laisse de côté le jeu mobile. Mm-hmm. Et du coup, c'est ceux qui vont aussi être plus facilement accessibles par tous, en fait, de tous et toutes, aussi bien pour les femmes et les hommes, par exemple. Les jeux de combat jouent beaucoup en ce sens-là. Et après, si on prend effectivement des jeux de guerre, Call of Duty, des jeux qui se font plus e-sport, des jeux vraiment de compétition, ils vont plus avoir lieu sur PC et sur console. Et ceux-là sont malheureusement beaucoup moins accessibles pour la population lambda. Et du coup, sur les jeux mobiles, on va se retrouver à des jeux un peu plus simplifiés, hein, malgré tout. Des jeux de foot, des jeux de tir, des choses qui vont plutôt venir aussi d'ailleurs, plutôt que sur notre propre continent. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'il y ait des développeurs comme Olivier et comme Teddy pour les développer sur place et les rendre accessibles sur le continent aussi.
Alors, on dit quoi ?
Alors, se pose maintenant la question des outils pour jouer, il faut bien le dire, sur le continent. Tout se fait sur le téléphone, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça représente environ 90% des usages sur le continent. C'est la spécificité du marché africain. Teddy, comment est-ce qu'on explique ce phénomène ?
Alors, ce qui s'est passé sur le continent africain, c'est que pendant des années, il y a eu très, très peu d'investissements dans les infrastructures, ce qui fait que très vite, lorsque les téléphones sont arrivés, d'abord, il y a eu les téléphones chinois qui sont arrivés massivement au début des années 2000, des smartphones à très bas coût. Et donc, très, très rapidement, un Africain a en moyenne 2-3 téléphones dans sa main. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les usages ont fini par tourner autour du téléphone. Dans un téléphone, on appelle, on paie sa facture, on regarde des vidéos, on navigue sur Internet. Bref, on fait tout à la fin de la journée sur son téléphone.
Et puis, c'est même moins cher aussi qu'un PC ou qu'une console, il faut bien le dire.
Totalement. Des téléphones à 50 000 francs CFA, qui est l'équivalent, je crois, de 80 euros. Et on s'est rendu compte que c'était plus facile de toucher un public africain via un téléphone. Donc, tout le monde s'est adapté à ces usages-là. Aujourd'hui, il y a environ 600 millions de smartphones en circulation sur le continent et ça va continuer à grossir dans les années à venir.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on se représente un petit peu le marché africain du gaming aujourd'hui ? C'est combien de milliards de dollars ?
Alors, le marché africain du gaming aujourd'hui représente à peu près 1 milliard. Donc, ça, c'est 1% de l'industrie totale.
Donc, ça reste quand même très symbolique.
Ça reste très, très symbolique vu la taille du marché africain. Mais ce qu'on sait, c'est que d'ici 3, 4, 5 ans, on passera à 3 milliards. Et au fur et à mesure que le coût d'Internet va baisser, au fur et à mesure que les gens auront de plus en plus de smartphones, ce marché tendra de plus en plus vers le standard européen.
Donc on va rattraper le retard, en fait, au fur et à mesure. Le gaming en Afrique, on continue d'en parler et on va réfléchir notamment avec nos invités à la représentativité de la culture africaine dans les jeux vidéo qui existent aujourd'hui sur le marché. Restez avec nous, on se retrouve juste après Video Games des Puppet Masters.
Mais all clack amphibians gather around. Green skin alligator, huge stickers get sound. Bombastic slime fader, so please press boost. Collect them strawberries, cause figures got bruised.
When you get plays on the round, one for the pad and two for the zone. Cause I'm sick of high tech pleasure. All day, every day, I got the ends on my treasure. No gold, no cyber for the game case. Just a big black box, won't make the city plays with this. You can defy me, be the best of me and hit NYC. Fight, punch, blazing KO, AB, while if you get the show. Keep the paddle for the risk is gone. I put the revenge on it for speed on the ground. Why? It's the Vikings War. Beat by DJ, Honey Brock. Mine will be flame, but you won't cash. Marcus, sign me and my cash.
Sitting back and collecting cash on the use of my name. All kids going insane for my video game. I'm using my brain to produce a reaction. See your kids act like rats when they can't get their package. I'm a brand new super fragatronic puppet action. Wizard got them split into factions. Some practicing black magic, others rich or rapping. But they know that their mothers will buy them whatever they need when they start taking chasm. So we have them by the balls, and that's why humans is taking our calls.
I blast, it blows, it seems to last for who knows. I gotta confess I'm addicted. Continue through all of it quickly.
My video games, I can play it all the day. As always on only days, my G's be sent to play. My video games, I can play it all the day. As always on only days, my just think is my best. My video games, I can play it all the day. As always on only days, my G's be sent to play. My video games, I can play it all the day. As always on only days, my just think is my best friend.
Video games des Puppet Masters dans Alors on dit quoi aujourd'hui avec Jennifer Loufaux, Mehdi Debabi Zourgani, Olivier Madiba et Teddy Kosoko. On vous parle du gaming en Afrique, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur le continent avec des gamers, comme on les appelle, qui cultivent une véritable passion pour certains jeux. La preuve tout de suite avec ce reportage en Mauritanie. Là-bas aussi, vous allez l'entendre, les jeunes s'adonnent à leur hobby favori. Notre correspondante Anne Wakshot, Ami Fofana, est allée à leur rencontre.
Au cœur de la Mauritanie, une génération connectée forge son identité à travers les pixels et les manettes. Les jeux vidéo, notamment sur les consoles PS4 et 5, tracent des récits passionnants avec des titres tels que la FIFA en tête d'affiche. Embarquons pour un voyage virtuel à travers les témoignages captivants des jeunes passionnés. Dans cette aventure, Alioune Kanouté, ingénieur logiciel de 27 ans, nous ouvre les portes de son monde vidéo ludique, partageant ses expériences et ses coups de cœur.
J'avais déjà 8 ans quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Les types de jeux que je préfère sont les jeux d'aventure, surtout les open world. Actuellement, j'ai une PS5, c'est elle qui me permet de jouer à mes jeux favoris. Bon, je joue aux jeux vidéo surtout par plaisir, pas forcément pour déstresser ou quoi que ce soit, mais c'est surtout parce que j'aime la fiction et tout ça, et disons que c'est surtout ma passion pour la technologie qui fait que je joue beaucoup aux jeux vidéo.
Bokarja, étudiant passionné de jeux depuis l'âge de 10 ans, nous transporte dans son monde où l'amour pour les jeux vidéo transcende les années. Entre cours séchés et soirées FIFA entre amis, il nous dévoile les moments marquants de son aventure ludique.
Il nous arrivait de chercher quelques cours pour aller jouer en tant que pote en douce. Depuis lors, on n'a pas perdu cette passion, cette envie de jouer aux jeux vidéo. Jusqu'à présent, on se réunit avec les potes pour passer de bons moments autour d'une partie de FIFA. Et Et puis ça nous permet vraiment de nous occuper, de ne voilà, pas s'ennuyer et tout. Tous les jeunes d'aujourd'hui jouent aux jeux vidéo, notamment à la PS4, PS5, les jeux de FIFA, PS et tout ça, franchement.
Mohamed Fofana, 27 ans, nous plonge dans ses souvenirs d'adolescence, marqués par ses compétitions endiablées de FIFA. Ces moments de rire et de moquerie résonnent encore aujourd'hui, soulignant l'influence durable des jeux vidéo sur les relations sociales.
J'ai participé à des compétitions, parfois le week-end. Nous nous retrouvions entre amis pour organiser des tournois de FIFA à tour de rôle. Et même en tant qu'adulte maintenant, nous nous retrouvons à chaque occasion, que ce soit chez l'un d'entre nous ou dans une salle de jeu. Parfois, quelqu'un peut apprécier ma manière de jouer et le week-end suivant, il me propose de faire une partie. Cette amitié peut se développer à force de se fréquenter. Et j'ai eu de nombreuses expériences similaires aussi et des connaissances grâce aux jeux vidéo. À l'avenir, j'aimerais vraiment voir plus d'événements ou de structures dédiées au gaming ici en Mauritanie.
Mortar Djeng, gestionnaire d'une salle de jeux à Nouakchott, nous offre un aperçu des défis rencontrés pour attirer une clientèle en dehors des week-ends. Découvrons les initiatives envisagées pour dynamiser cet espace dédié aux passionnés de jeux vidéo.
Notre espace accueille des passionnés de jeux, principalement pendant les week-ends. Lorsqu'ils se réunissent en groupe d'amis pour profiter de notre large sélection de jeux. Nous avons des consoles de jeux telles que les PlayStation 4 et 5, ainsi que la Xbox One, voilà, qui sont les préférés de notre clientèle.
Nous avons plongé dans l'univers vibrant des jeux vidéo en Mauritanie. Ces histoires individuelles tissent la toile d'une communauté unie par la joie, l'amitié et la compétition. Alors que la demande pour les expériences de jeux évolue, les gestionnaires de salles comme Mortar Djeng cherchent à innover, témoignant de l'importance croissante du gaming dans la société mauritanienne. En espérant que ces récits continuent d'inspirer de nouvelles aventures et que l'écho de Manette résonne encore longtemps à travers les rues de Nouakchott.
Mehdi Debabi Zourgani, une réaction à ce reportage?
Oui, alors c'est très intéressant parce que tout à l'heure, après les interventions de Jennifer, je voulais rebondir sur un point. Là, c'est parfait, le lien est fait. On disait que l'Afrique rattrapait son retard. En réalité, le retard n'est pas si marginal que ça. Parce que moi, j'ai un souvenir en mode un petit peu ancien, qui était ce que les Occidentaux ont un petit peu moins l'habitude des appellations de taxiphones, qui étaient déjà à l'époque en fait des lieux d'accueil et vraiment de tissu de lien social. Et là, on a un témoignage parfait qui vient nous montrer que maintenant, l'espace de jeux vidéo n'est plus une succursale de taxiphone, mais est devenu un espace en tant que tel pour organiser. Donc en réalité, même ce réseau-là n'avait pas pris tant de retard que ça en Afrique. Et un deuxième autre point qui est très intéressant, parce que je ne voulais pas interrompre Jennifer tout à l'heure, mais c'est pas un hasard, en fait, l'exemple de Tekken dont on parlait tout à l'heure sur les compétitions en e-sport. Parce que c'est un jeu qui s'est fait beaucoup connaître du grand public mondial pour représenter énormément d'ethnies, dont notamment les ethnies africaines. On a un exemple qui est très intéressant avec un des personnages qui a été cosplayé, donc c'est-à-dire qu'il y a un chanteur afro-américain qui s'appelle T-Pain qui a provoqué vraiment un émoi dans les communautés africaines parce que il s'était habillé, s'était grimé sous les traits de ce personnage de jeu. Donc il y a du retard technique, technologique évidemment, mais en tout cas le lien est là depuis très longtemps.
En tout cas, dans ce reportage, on entend la passion des joueurs, hein, au point qu'ils sont même prêts à louper les cours, à sécher les cours pour se retrouver à la salle de jeu, ce qui est pas forcément la meilleure idée.
Ça existe ailleurs aussi. Hein. Au Japon, il y a eu des lois qui ont été créées pour la sortie d'un jeu qui s'appelait Dragon Quest pour éviter aux enfants de faire l'école buissonnière.
Mais alors justement, pourquoi est-ce qu'on aime tant jouer? Je m'adresse aux psychologues. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de jouer?
Ben, je pense que c'est tout simplement tous les processus d'identification qu'on va retrouver dedans. C'est tous les imaginaires qui sont convoqués, la science-fiction, le passé. Voilà, on peut effectivement, en un claquement on doit se retrouver dans un je ne sais quel jeu historique au Moyen-Âge, quelle que soit la période. Alors, un petit peu trop dominante sur des représentations effectivement occidentales, mais sinon, il y a aussi cette réalité, simplement se dire je suis un tel, je suis une telle, et même sur les questions de représentation sur lesquelles on reviendra sûrement un peu plus tard.
Mais pourquoi il y a un tel succès, par exemple, des jeux de guerre ou de combat? Qu'est-ce que ça dit des individus qui y jouent?
Alors ça, c'est très compliqué. C'est vraiment différents champs, notamment sociologiques et anthropologiques, qui font que ce sont des imaginaires guerriers dont déjà, objectivement, on est abreuvé. En termes de communication, vous regardez qu'est-ce qui est en affiche en 4x4, ça va être, si c'est de l'arme blanche, Assassin's Creed, si c'est effectivement du jeu de tir, Call of Duty. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est effectivement d'attiser par effectivement la dimension d'excitation qu'il y a. Il y a une opposition, il y a quelque chose de très basique, et on va un peu moins intellectualiser, comme le disait Jennifer tout à l'heure. Donc, il y a une entrée dans le jeu qui va être plus facile. Mais je pense que la raison première, c'est qu'il y a une surexposition en termes de communication de ces jeux-là. Et les gens ignorent totalement qu'il existe des jeux qui vont représenter d'autres imaginaires, d'autres cultures, d'autres alternatives, ou même, encore plus fous, soyons fous, des représentations effectivement d'univers guerrier, mais qui viennent dire quelque chose sur la culture. Je pense qu'Orion, et je laisserai le concerné en parler beaucoup mieux que moi, le fait. Je termine vraiment avec un dernier exemple. Dans les cours de game design que je donne, j'ai un cours sur les représentations de ce qu'on appelle l'orientalisme. Donc l'orientalisme, c'est une certaine vision, effectivement, de l'Orient fantasmée par l'Occident. Et dedans, j'explique qu'effectivement, avec des témoignages d'interviews autour, à l'époque, du jeu Orion, qui a été un jeu kickstarté, c'est-à-dire qu'il y a eu un financement participatif, qu'en réalité, les interviews expliquaient qu'ils voulaient un schéma de ce qu'on appelle un jeu de rôle, un RPG pour les fans de jeux vidéo, qui était différent des classiques américains ou japonais. Américains avec une vision très augmentation de l'expérience, très judéo-chrétienne dans les symboliques, japonaises avec des représentations, je vais très vite hein, pour les auditeurs et auditrices, qui vont plus reprendre le trauma d'Hiroshima et certaines représentations du côté très très le groupe avant l'individualité. Et là, ils avaient dit, et je serais peut-être contredit, je n'espère pas, que là, la volonté, c'était de représenter une culture, effectivement, de la parole et d'un cheminement intérieur, plus que les représentations habituelles dont on est abreuvé.
En tout cas, ce qui est frappant dans le reportage qu'on vient d'entendre, c'est qu'on comprend bien que les jeunes aiment des jeux qui sont issus de l'Occident.
Et on retrouve même des jeux africains qui, parce que c'est aussi un appel de séduction, c'est presque une alternative, on n'a pas trop le choix, qui vont mettre comme le lieu de la résolution de la fin du monde, comme étant l'Europe, les États-Unis, avant même de représenter leur propre pays.
Avec des personnages blancs, donc Jennifer, qui vivent des réalités souvent loin du continent, quel problème ça pose selon vous, Jennifer ?
À mon sens, ça pose pas mal de problèmes d'identification. Alors déjà, il nous faut des jeux qui représentent des personnes blanches. C'est tout à fait normal qu'elles aient accès à cette identification-là. Moi, en tant que joueuse, j'ai joué toute ma vie. J'ai grandi en fait en jouant à des personnages blancs qui ne me ressemblaient pas du tout et auxquels je pouvais m'identifier à travers l'histoire, l'univers qu'on me proposait. Là n'est pas le souci. Simplement, c'est l'absence de personnages qui puissent me ressembler, l'absence de pouvoir me projeter en fait dans cet univers-là qui me posait un problème. Il faut savoir que moi, j'ai découvert le jeu vidéo en Afrique, en grandissant au Bénin. Je suis tombée sur Prince of Persia dans un cybercafé et tout de suite, j'ai vraiment adhéré. Mais alors aujourd'hui, je me demande si j'étais tombée sur un espèce de Prince of Persia, mais qui était sur les cultures africaines, quel impact ça aurait eu sur moi, en fait. En termes de développement, en termes de projection, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, je serais à la tête d'un grand studio africain. Pourquoi pas, j'aurais peut-être créé mon propre jeu. Mais c'est pour dire que ça crée des problèmes d'identification qui empêchent en fait les personnes, au-delà d'avoir accès à ce à quoi elles ont déjà accès, d'aussi commencer à se projeter, à se dire « Ok, j'existe aussi dans ces univers-là ». Et la raison pour laquelle les personnages qu'on retrouve et les univers qu'on retrouve sont tellement occidentaux, c'est parce que c'est l'Occident qui crée majoritairement, avec l'Asie, qui crée majoritairement ces jeux-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a vraiment son histoire à raconter à travers ces jeux-là. C'est vraiment une opportunité qu'on a et il faut qu'on la saisisse dans les prochaines années. Le travail a déjà commencé fort heureusement avec des personnes comme Olivier et Teddy, mais on a encore beaucoup à faire et surtout il faut qu'on se rappelle que nos cultures sont ultra riches et qu'on a vraiment besoin de les mettre en avant pour les générations futures aussi qui n'auront pas donc à vivre les mêmes problèmes qu'on a vécu jusque-là.
Alors on dit quoi ?
Lucie Bouteloup.
Alors Olivier Madiba, le besoin d'identification à des héros issus de la culture africaine, c'est ce qui vous a donné envie de créer le premier jeu d'African Fantasy, Orion, l'héritage des Coréodan, dont parlait tout à l'heure Mehdi Debaby.
Alors comme il a dit, c'est multidimensionnel. Effectivement, il y avait une envie de créer quelque chose qui nous ressemble. Mais comme a dit Jennifer, c'est la ressemblance. Oui, il y a le côté, la carnation de peau, le fait qu'on est noir, on veut des héros noirs, parce que ça nous donne une confiance en nous-mêmes. Mais surtout, finalement, il y a des problèmes qu'on a, que les héros des autres n'ont pas.
Comme lesquels, par exemple?
Alors, je vais par exemple dire quoi? C'est-à-dire, on a, aujourd'hui, je dirais, notre génération, on en parle tous chaque fois qu'on se croise. Et on a le défi d'inventer le futur de l'humanité en tant qu'Africain, parce que le capitalisme n'a pas marché, le communisme n'a pas marché, le socialisme aurait pu marcher, et du moins ça semble être une bonne alternative, mais ça struggle aussi. Et nous, on a la chance d'avoir, enfin la chance et la difficulté, d'avoir un tableau vide sur lequel on peut poser une nouvelle façon de faire de la prospérité qui pourrait inspirer le reste de l'humanité. Mais maintenant, comment tu fais ça alors que tu es celui qui commence le plus en retard sur l'échiquier mondial? C'est-à-dire, on a compris la géopolitique tard, en tout cas, notre ère africaine, parce que bon, si on remonte 3000 ans avant, c'était pas la même chose. Mais là, depuis quoi, 500 ans, 1000 ans, on est assez en retard sur les enjeux, les guerres, les guerres sur les ressources. Nous, on les a compris très tard qu'il y avait une guerre sur les matières premières. Et c'est littéralement, en fait, l'histoire qu'on décrit dans notre jeu. Les héros sont issus d'un royaume qui est une forme d'Afrique magnifiée, fantasmée, avec toutes les bonnes valeurs. Et subitement, ils sont exilés. Et eux, ils sont en mode, on est rebellés, voilà, on veut reprendre notre royaume. Ça, c'est un peu la rébellion des Africains qui veulent lutter contre la colonisation, reprendre l'indépendance. Mais plus ils voyagent dans le monde, plus ils réalisent que le problème, c'est pas de reprendre sa souveraineté, c'est après d'être capable de trouver sa place dans toute la guerre d'intérêts qu'il y a là. J'avais un débat une fois avec des amis où je discutais sur le fait que nos ancêtres ont par exemple péché du fait qu'ils n'ont pas, et à un moment ils ont arrêté de faire de la recherche et de l'exploration, parce que ça aurait permis qu'on ne soit pas colonisé. Et là, mes amis me disent, oui, mais est-ce qu'on aurait donc dû devenir des colonisateurs nous-mêmes? Et finalement, qu'est-ce que l'humanité aurait gagné? Et alors je leur dis non, l'idée, c'était pas de créer la plus grande épée du monde, mais peut-être ça nous aurait entraîné à créer le plus grand bouclier du monde. Donc comment, et ça c'est vraiment le truc, c'est comment est-ce que tu arrives à maintenir ton intégrité, cet aspect de communion avec la nature, avec l'autre, que nous, on aurait aimé garder en Afrique, tout en prenant en compte qu'il y aura des gens qui viendront peut-être t'agresser, qui ne comprendront pas ça. Mais comment ce grand dilemme de comment tu crées la paix sans forcément devenir notre maillon de la guerre.
Donc il y a toute une dimension philosophique aussi dans le jeu. Je vous propose justement qu'on écoute un extrait de ce jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'univers de votre jeu? On est dans un royaume, comme vous le disiez tout à l'heure. Comment sont les paysages? Comment sont les personnages? Racontez-nous un peu.
D'accord. Alors, Orion, c'est le premier univers d'African Fantasy, en tout cas dans le monde du jeu vidéo, qui a été créé. Notre ambition, c'était de créer un voyage qui aurait été sur différents axes, c'est-à-dire ça devait déjà être quelque chose de visuel. Donc on voulait faire de la fantasy africaine, on prenait des tentes, on prenait des traditions, on prenait des peuples de différents points d'Afrique, parce qu'il n'y a pas une tradition africaine. L'Afrique, c'est extrêmement riche. Rien qu'au Cameroun, on a 250 tribus. Donc rien que là, on n'a pas fini de faire le tour. Donc l'idée, c'est de prendre des petits éléments et de les magnifier en se disant, bon, si cet élément avait eu 10 000 ans, 15 000 ans de plus, ou si ça avait été fait avec de la magie, à quoi ça ressemblerait? Il y a ce voyage visuel-là.
Donc mais quelque chose de fantastique et qui fait rêver quand même, qui fait rêver le joueur. Hein. C'est une Afrique un peu fantasmée.
Le défi aussi, c'est qu'on se disait, on veut que la narration doit être quelque chose qui touche quelqu'un qui y joue même en Alaska. C'était une phrase qu'on avait prononcée quand on commençait à écrire le jeu, où on disait en termes de narration, on veut porter la narration à un niveau, où même si tu n'es pas obligé d'être africain pour aimer l'histoire, il faut que ce soit une histoire universelle, avec une source africaine, mais qui finalement résonne dans la quête profonde du fait d'être humain, parce qu'au final, il y a une chose que tous les humains partagent, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait là, il y a une forme de pourquoi je vis tout ça, quel est le grand but de tout ce qui se passe là, et où nous on voulait apporter en fait cette perspective africaine, parce qu'on a la richesse finalement d'être au milieu du monde, même quand on monte la carte du monde, nous sommes entre l'Ouest et l'Est et le Nord, et on a cette richesse, en particulier au Cameroun, mine de rien, d'avoir croisé des Français, des Anglais, des Allemands, d'avoir discuté avec des Russes. Donc, ça nous donne une vue où on a l'impression que tout le monde est convaincu qu'il a raison. Et nous qui sommes au milieu, on se dit, mais en fait, ils veulent tous la même chose, mais pourquoi ils ne parlent pas entre eux? Pourquoi on ne se parle juste pas? Donc, Orient, c'est vraiment un monde qui montre cette grande... Si je devais... On a trouvé les trois mots, ce serait... Orient, ce serait du fun, de l'action et du dilemme sur la quête de l'harmonie. Et c'est tout ça, en fait, comment Orion, de quoi Orion parle. Comment créer de l'harmonie avec les différences? Et comment est-ce que toi, aujourd'hui, qui es un des peuples les plus faibles, tu dois guider les peuples les plus forts qui sont en train de se taper dessus, qui veulent te taper dessus, pour qu'ils arrivent à s'écouter et à voir que l'harmonie naît de la somme des différences?
Donc un message de paix. Teddy Kosoko, votre studio Maseka Game, il est basé en France. Pourtant, vous aussi, vous avez décidé de faire découvrir la culture africaine dans vos jeux. Pour quelle raison? Pourquoi c'était important pour vous?
Donc, je suis né en Centrafrique, je suis né à Bangui, j'ai grandi là-bas. Et à mes 18 ans, je suis arrivé en France pour faire des études en informatique. Et je me suis rendu compte que la plupart des Africains ne connaissent pas l'Afrique. Les Européens ne connaissent pas l'Afrique, les gens de la diaspora aussi ne connaissent pas l'Afrique. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de savoir quel était le moyen le plus adéquat pour raconter l'Afrique, l'Afrique d'avant la colonisation, l'Afrique des grandeurs, l'Afrique des empires. Et donc, à partir de ce moment, j'ai beaucoup misé sur le jeu vidéo. J'ai créé un premier jeu à côté de mes études. Et quand j'ai vu l'impact que ça avait sur toute la planète, en Afrique, en Europe, en Asie, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec cet outil.
Oui, donc il y a un marché, il y a un appétit hein, pour ça, pour le jeu vidéo avec la culture africaine.
Je pense même qu'il y a un enjeu supplémentaire. Il y a un appel d'air intéressant. Bon, on parlait de cinéma, je pense que l'inévitable, ça reste Black Panther. Mmh. Hein, je pense qu'au plus accessible. C'est de se dire, aujourd'hui, on est à un tournant où tout à l'heure se poser la question, comment est-ce qu'on peut reprendre le train en marche après ce temps, parfois malheureusement par excès de bienveillance dans les cultures africaines face à l'Occident. Comment est-ce qu'on peut reprendre le train en marche? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit émerger sur Netflix, sur plein Disney+, plein de gros hashtags qui vont être effectivement plus singuliers les uns que les autres, LGBTQIA+, etc., différentes ethnies, dont l'Afrique. Et je pense que là, il y a quelque chose à intelligemment renverser, c'est-à-dire reprendre cet élément-là et ne pas aller effectivement sur le travers inverse, qu'on a ce problème-là à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on représente parce qu'on se dit ça représente de l'argent sur un instant T et puis le jour où ça intéresse plus on s'en désolidarise mais il faut éviter aussi des clichés dans le jeu vidéo, ça arrive parfois, on a beaucoup de reprises de clichés de l'Africain et notamment moi je suis un peu moins concerné, je laisserai les concernés en reparler, mais du noir comme incarnant effectivement pas seulement de la puissance mais une animalité et presque la peau noire qui devient un habit en tant que tel quoi.
Et c'est là que vous intervenez Jennifer puisque justement vous êtes consultante, notamment autour des questions d'inclusion. Vous êtes consultée par les studios,
par les studios de jeux vidéo.
De jeux vidéo oui.
Plutôt les studios occidentaux, parce que effectivement, je sens qu'il y a un réel besoin de les aider en ce sens. Mm-hmm. Les studios sont majoritairement, si on parle de la France du moins, composés de personnes blanches. C'est très masculin aussi comme secteur. Ce sont des personnes qui ont envie de créer des choses, des histoires incroyables, avec des représentations de temps en temps diverses. Donc moi, mon travail, c'est de venir les aider à se rendre compte que parfois, dans ce qu'ils proposent, eh bien, il y a des biais, il y a des stéréotypes qui persistent. Typiquement, bah, les hommes dans les jeux vidéo et même dans la pop culture de manière générale, les hommes noirs sont vus comme des êtres agressifs, violents, sauvages. La preuve, c'est que lorsque je demande aux personnes de me citer un héros noir de jeux vidéo qu'ils aiment beaucoup, souvent, c'est des personnages de GTA. GTA, c'est un jeu sur la criminalité où, pour augmenter, en tout cas, pour performer dans le jeu, il faut être le pire criminel du monde et faire plein de missions terrible. Donc C'est à ça que correspondent pour la majorité des personnes le héros noir dans les jeux vidéo. C'est quand même assez grave parce que c'est pas la représentation la plus positive de l'homme. Et alors quand il s'agit des femmes noires spécifiquement, là ça va être de l'hypersexualisation, c'est le cas déjà pour les héroïnes de manière générale. Mais alors retrouver déjà une héroïne noire dans le jeu vidéo, ça se compte sur les doigts de la main déjà, il faut le dire. Et quand elles existent, bah souvent ce sont des personnages secondaires, ce sont des personnages qui ne sont pas jouables, ce sont des personnages qu'on va utiliser pour cocher la case de la diversité. Donc moi, mon travail, c'est justement de venir aider ces studios-là à continuer à créer ces histoires, mais à le faire mieux, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de bien faire les choses. Donc je pense qu'il y a trois étapes, en fait, pour avancer en termes de représentativité, notamment des personnes noires et africaines dans le jeu vidéo. C'est d'abord, en ce moment, c'est l'Occident qui crée ces jeux-là et qui apporte de la diversité. Bon, on fait avec, mais elles peuvent mieux faire. Dans ces représentations-là, il y a des clichés, il faut y faire quelque chose. La deuxième étape, c'est que les personnes de la diaspora africaine qui se trouvent en France, en Occident ou ailleurs, commencent aussi à créer ces jeux, à l'instar de Teddy, par exemple, ou de plein d'autres personnes ici en France. La troisième, c'est bah, justement aux Africains eux-mêmes de aussi commencer à créer ces jeux-là. Heureusement, on est déjà dedans. Donc je pense que moi, je suis très optimiste en fait en ce qui concerne nos représentations dans le futur. Et je rêve qu'un jour, effectivement, on ait un Black Panther dans le jeu vidéo qui puisse nous être accessible, parce que finalement c'est ça qu'on veut, mais on veut aussi des histoires qui sont normalisées. On veut pas juste mettre des Africains pour mettre des Africains, on veut voilà, que l'Africain puisse exister tout simplement dans les jeux vidéo.
Le gaming en Afrique, c'est le sujet de Alors on dit quoi. Dans quelques instants, on parlera des difficultés auxquelles sont confrontés les studios sur le continent pour pouvoir se développer, mais avant, un peu de love avec Obasima par Fireboy DML. Restez dans le game. Vous êtes bien sûr RFI. You say you know feel I'm, the love I get for you not for real. You know be say you know see I'm, when no be say I be just see I'm. Story of my life, without you I know fit to complete them. Don't leave me your dog, don't leave me your dog. Oh yeah, open your dog to the multi she said. Go go, and I won't spend it on you. When you go low, happiness all over me. Can I see you tonight? Nobody knows tomorrow. If you know they fight, you know they fight. Set me back. Oh, my dear, damn. Baby, my yawo. Where you want go? Want to go? Santorini, your echo. Come over, don't say no. Wanna spare my ego. If you know they fight, set out me back. Monty, Fago. That's the way your sorrow. Fireboy DML sur RFI dans Alors on dit quoi, un numéro dédié aujourd'hui au gaming en Afrique, un marché en pleine expansion et pourtant c'est encore très difficile de créer des modèles économiques rentables. Teddy, aujourd'hui combien il y a de studios sur le continent qui font du jeu vidéo?
Alors, nous avons globalement une centaine de studios officiels sur le continent africain. Même si on peut en compter un peu plus dans les 300 avec tous les jeunes qui font des jeux vidéo, qui se nomment studio, mais qui n'ont pas d'identité légale.
Et combien sont rentables?
Alors aujourd'hui, si on met de côté l'Afrique du Sud ou l'Égypte, où il y a 5, 10, 15 studios qui sont rentables, en Afrique noire, il y a quasi peu de studios, voire zéro studio qui sont rentables avec des jeux vidéo créés sur le continent et vendus sur le continent. Il n'y a pas de studios.
Alors Olivier Madibo, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un précurseur sur le marché africain du jeu vidéo à thème africain. Vous avez monté votre studio Kairos Game au Cameroun en 2013, ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, vous avez 25 salariés. Pourtant, ça reste encore très difficile pour vous de dégager des bénéfices, comme le disait à l'instant Teddy. Pour quelles raisons? C'est quoi les freins? Qu'est-ce qui vous empêche de vous développer aujourd'hui?
Très bonne question. En fait, je dirais que la réalité, c'est le manque de financement déjà aussi. Et pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de financement? Parce qu'on n'entre pas dans les cases des financeurs qui aiment des choix plus simples. Je me rappelle, il y a l'année dernière, malgré ce qu'on a fait déjà à chaque étape de Kairos Games, ce qu'on veut faire est jugé impossible. Donc quand on voulait faire le premier jeu, on nous disait « Oui, mais vous n'avez jamais été dans un studio de jeux vidéo, vous ne pouvez pas y arriver. » On l'a fait. Quand on a fini et qu'on s'est dit, tiens, on va faire du cross-média parce que c'est plus périn.
Du cross-média, ça veut dire que vous avez développé plusieurs médias. En plus du jeu vidéo, vous faites aussi de la bande dessinée, je crois, c'est ça, hein?
Voilà. Mm-hmm. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, pour un studio qui doit avoir une vocation à bâtir une industrie pour un continent, il vaut mieux avoir un univers cross-média parce que ça crée une meilleure chaîne de valeur autour quand on va grandir que de se dire qu'on va être un studio à un jeu.
Donc un problème de financement, excusez-moi Olivier, mais il y a également aussi un problème peut-être de choc des générations, c'est-à-dire que les aînés ne voient pas forcément l'intérêt de miser sur cette économie-là. Teddy Kosoko, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors c'est sûr et certain qu'il y a un problème de génération et la perception du gaming, c'est-à-dire que la génération actuelle au pouvoir qui détient l'argent ne comprend pas comment on peut faire de l'argent avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que si vous venez les voir avec un projet de ferme où vous allez faire des élevages de poulets ou de canards ou du maïs, là, ils vont comprendre, ils vont savoir comment vendre cela. Par contre, si vous arrivez et que vous leur dites « je vais faire du jeu vidéo », ben, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre ce que c'est, comment vous vendez votre jeu vidéo, comment vous touchez vos clients. Et si vous leur dites que ça génère des millions, ils ne sauront pas. Par contre, on sait que nos politiciens sont très forts pour mettre des taxes. Donc, le jour où ils vont avoir beaucoup d'argent, ils vont créer des taxes dans tous les sens.
Donc, un problème de financement privé, un problème de soutien peut-être au niveau des gouvernements. Puis, il y a un autre problème auquel vous devez faire face. Je crois aussi que ça concerne la formation, Olivier.
Alors, oui. Alors, la formation, quand on en parle, tout le monde se dit que c'est une formation technique qui est le plus dur, mais c'est pas le plus dur. Avec des tutoriels, aujourd'hui, tout le monde peut apprendre à faire du jeu vidéo techniquement. Non, le plus dur dans la formation du jeu vidéo, c'est la formation humaine. Donc, quand vous faites du jeu vidéo, c'est énormément du sens du détail. C'est un niveau de pression, souvent, parce que vous commencez une idée en janvier, mais c'est en juin que vous pourrez la tester. Et si vous vous êtes raté, il faut avoir été précis pendant 6 mois. Tout le monde n'est pas éduqué à ça. Donc, vous avez beaucoup de gens qui entrent dans le monde du jeu vidéo avec des rêves. Ah ouais, je rêve d'être game designer, mais ils ont une illusion. Ils se disent qu'ils vont arriver dans un studio, ils vont donner des idées, ils vont s'asseoir devant une machine, ils vont taper 3-4 clics et le jeu va sortir. Mais quand le gars arrive et qu'il se rend compte, on a souvent une blague, qu'il doit refaire un personnage 4 fois, 5 fois, parce qu'il faut qu'il prenne en compte les cohérences de l'univers, qu'il prenne en compte le ton du décor qui a été dessiné par quelqu'un d'autre, là, ce n'est plus fun. Et maintenant, il y a tout un background d'éducation à l'effort et à l'excellence qui n'a pas été assez posé. C'est là le plus gros challenge. Alors, quand je dis que les gens ne sont pas éduqués à l'excellence, ça a l'air d'être cliché, mais en fait, je donne un truc tout bête. Quand un jeune Français apprend l'histoire de son pays, il apprend comment son pays allait conquérir des choses. Quand nous, on apprend l'histoire de nos pays, on nous apprend qu'on a perdu. Mm-hmm. C'est-à-dire, depuis que tu nais, quand tu es au Cameroun et que tu nais en général, la plupart de ce que tu vois de toi, c'est quelqu'un en train de perdre. D'où le problème de représentativité dont Jennifer parlait. Si on était des boxeurs, on est des personnes qui savent encaisser en restant au bout du terrain et on ne tombe pas. Mais on ne sait pas donner de coups, c'est-à-dire on ne sait pas gagner. Et ça, en fait, c'est aussi là où le gaming, par contre, est très intéressant. Parce que lorsqu'un studio comme le nôtre ou comme celui de Teddy émerge, au final, ça crée un symbole qui permet que les jeunes qui ont des rêves réalisent qu'on ne peut pas se contenter de boxer en étant dans les cordes. Il faut sortir de soi, il faut se dépasser. Donc aujourd'hui, on est dans une génération qui doit apprendre à gagner et ça nous demande un strive nécessaire sur lequel nous, les studios, on essaye de s'opposer en modèle.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale gaming. Jennifer Loufo, Mehdi Debabi Zourgani, Olivier Madiba et Teddy Kosoko. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer, à Guillaume Munier à la réalisation. Cette émission était le dernier numéro de Alors on dit quoi ? Une très très belle aventure qui se termine. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous retrouver ces dernières semaines pour ce rendez-vous. On se retrouve bientôt sur l'antenne et sur le site de RFI pour un nouveau projet, une chronique qui s'intitule « Les mots des JO » et qui sera diffusée tous les week-ends. Mais évidemment, c'était impossible de tourner la page de cette émission sans vous retrouver. Ndiara Ndiaye, bonjour.
Bonjour Lucie, merci.
Alors, vous êtes avec nous depuis Dakar et vous avez tenu à adresser quelques mots aux auditeurs, hein.
Absolument, Lucie, c'est avec une immense gratitude, hein, tant et d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Pour la dernière fois, dans le cadre de notre programme Alors on dit quoi ? Durant 5 ans, j'ai eu le privilège de parcourir l'Afrique et le monde à la rencontre de ces pépites humaines dont la richesse et le talent sont taillés sur mesure pour relever les défis de notre continent. Ensemble, je pense que nous avons exploré divers horizons, politique, sport, entrepreneuriat, industrie créative, engagement citoyen, environnement et j'en passe. Tous ces domaines riches en profils divers m'ont inspiré et conforté dans l'idée que parler positivement de l'Afrique peut réellement transformer les mentalités et changer la perception souvent négative du continent. Alors 10 sur 10, un score que je décerne de tout mon cœur à cette jeunesse africaine dévouée, motivée et déterminée, à nos aînés toujours prêts à transmettre leur savoir et à tous ces hommes et femmes qui dans l'ombre éclairent des combats cruciaux comme l'égalité des sexes, la lutte contre les violences, la réduction de la pauvreté ou encore la création d'emplois. Croyons en la force et en la détermination de la jeunesse africaine, car elle détient, selon moi, le pouvoir et la créativité nécessaires pour transformer l'avenir et façonner l'histoire de notre continent.
On sent un petit pincement au cœur, hein, Diarra. Faut dire que c'est une belle aventure collective qui s'achève là, hein.
Absolument, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à enrichir et soutenir ce voyage radiophonique. Un grand merci, un immense merci à mes collaborateurs Guillaume et Beverly, sans oublier Daba et Ablaï Gueye pour leur dévouement, leur passion et leur travail acharné. Leur soutien a été essentiel dans la réussite de notre programme. Merci pour votre esprit d'équipe, votre camaraderie et votre soutien constant. Je vous adresse ma gratitude la plus profonde. Ensemble, nous avons formé une famille partageant les mêmes valeurs et la même passion pour l'information et la communication. Leur présence bienveillante, leurs conseils avisés et leur soutien infaillible m'ont souvent donné la force et l'inspiration nécessaires pour avancer, pour innover et pour me surpasser. Mes remerciements vont aussi à tous nos correspondants à travers l'Afrique, dont les reportages et les analyses ont grandement contribué à la richesse de notre contenu. Leur travail sur le terrain a été crucial pour nous permettre de porter un regard authentique sur les divers enjeux du continent. Je vous remercie tous du fond du cœur pour ces années d'échange, de partage et d'apprentissage mutuel. Je ne saurais oublier ma famille et mes amis, mes premiers auditeurs qui m'ont soutenu sans faille. Leur amour, leur encouragement et leurs critiques constructives ont été le moteur de ma persévérance et de mon engagement. Enfin, Lucie, je tiens également à remercier la direction de RFI qui m'a accordé toute sa confiance tout au long de cette aventure. Son soutien a été un pilier dans l'évolution de ma carrière et le succès de notre émission. Donc à tous, je vous dis un immense merci. Votre confiance, votre talent et votre soutien ont été les clés de ces années de succès et d'épanouissement. Ensemble, je pense que nous avons construit quelque chose d'unique et bien que cette page se tourne, les souvenirs et les accomplissements partagés resteront à jamais gravés dans mon cœur. Alors on dit quoi fait désormais partie d'un livre dont j'ai hâte que nous tournions les nouvelles pages ensemble. Merci du fond du cœur pour tous et à très bientôt. Merci à toi Lucie de m'avoir remplacé durant mon absence. Umno le Ragongol, à bientôt.